Eh bien, moi, je vais vous laisser la parole, puisqu'on a un petit peu de temps. La parole, c'est-à-dire que si quelques-uns d'entre vous ont envie de rebondir, voilà, j'ai déjà une main qui se tend, qui se lève, le temps de vous tendre un micro. Deux, oui, il y a deux mains déjà, hein, une deuxième, donc là, oui, on peut commencer là. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et puis vous apportez votre pierre à l'édifice, parce que c'est ça. Le but de ce colloque, c'est d'apprendre, mais d'échanger.
Donc, Éric Vintin, le Muséum d'Histoire Naturelle. Merci à tous ceux qui ont fait les rapports, parce que c'était pas évident. Je voulais vraiment vous féliciter pour ça, parce que, en plus, vous avez été bien nourri et bien abreuvé hier soir, donc c'était quelque chose qu'il fallait faire en plus, quoi. Bien, donc petite précision tout de même, je voulais revenir sur le premier rapport et pour donner une précision sur l'étude que nous avons conduite par rapport à l'effet du bouchon vaseux. En fait, la conclusion qu'on a eue, c'est que pour le moment, pour le saumon, on n'a pas eu les éléments pour pouvoir conclure parce qu'on a attrapé que 7 saumons en 2 ans. Donc ça veut dire que analyser l'effet de la traversée de l'estuaire n'est pas chose faite encore. Et notamment pour la descente des smolts, pour lesquels on n'a aucune information pour le moment. Donc, ça a été très bien dit tout à l'heure, là, l'estuaire, c'est bien connu, ça pue. Et quand on est un saumon, c'est pas évident de le traverser au-delà du bouchon vaseux. Donc on ne sait pas du tout l'effet que ça peut avoir sur le succès de la reproduction et le succès de la migration. Et encore une fois, pour les smolts, on a des informations jusqu'à l'amont de l'estuaire, puisqu'il y a eu un suivi qui a été réalisé par un pêcheur professionnel. Par contre, au-delà, c'est-à-dire à peu près un petit peu en dessous d'Angers, ça se passe, au-delà, on ne sait rien. On ne sait rien sur la traversée de l'estuaire par les smolts. Et ça, c'est un gros défi, d'ailleurs, qui est inscrit dans le plan saumon.
Voilà, des précisions bien utiles qui effectivement montrent que l'état de la recherche, on a encore besoin de poursuivre la recherche, mais que c'est pas aussi évident que ça. Hein. Je pense que comment au fond trouver une méthode qui permette de quantifier et de suivre comme il faut les saumons dans cette traversée de l'estuaire. Hein. C'est un petit peu ça le résumé. C'est-à-dire que on n'a pas, mais en même temps, c'est très difficile à quantifier et à suivre. Voilà, alors j'avais Sylvain Lecuna, voilà.
Bonjour, Sylvain Lecuna, EDF. Je voulais apporter aussi une petite précision par rapport à l'atelier numéro 1, notamment sur la répartition des productions entre les deux branches, Alliance du Sud. Alors maintenant, on a des éléments techniques qui sont bien plus approfondis que ce qu'on pouvait avoir il y a encore un an, puisqu'on a profité d'un abaissement qui était fait à l'automne pour tester le fonctionnement des machines à la cote future de fonctionnement de l'aménagement, ce qui permet d'avoir plus que des courbes théoriques, mais des essais en réel. Et ces essais nous permettent maintenant d'affirmer que la répartition qui était avant de 60% de production pour la branche alliée et 40% pour la branche anse sera maintenant inversée et passera à 60% pour la branche anse et 40% pour la branche alliée. Tout ça pour dire que l'aménagement de Poutest reste majeur dans la production de l'ensemble de monistrol d'alliés. Voilà.
Précision utile, hein, comme quoi. Alors, on a Monsieur Alardi, une autre paire. Oui, c'est ça.
Jean Alardi, AIDSA. Je voudrais revenir sur le rapport, genre, je crois que l'atelier numéro 2. Quand on a le rapporteur a présenté rapidement le travail de Pruvot, donc de l'INRA, il a dit, je mets mes lunettes, excusez-moi, j'arrive pour que je puisse me relire. Si le repeuplement s'arrête, donc on arrive à 260 poissons au bout de 20 ans. Si on continue les repeuplements, qu'est-ce qui se passe?
Patrick Martin. Oui. Oui, on en fait un échange, hein, forcément. Celui qui a la réponse, il apporte, ou une réflexion à donner.
C'est effectivement une très bonne question. Ce modèle, il a tourné que dans un sens. Il serait intéressant de le faire tourner dans l'autre sens. Avec un objectif, mais je vous le présenterai tout à l'heure. Un objectif, il veut dire, cet objectif, peut-on l'atteindre? Et que nous dit le modèle? Ça, c'est une vraie question. Donc, c'est un modèle qui a pris du temps, qui a pris de l'argent, qui a nécessité, je crois, 3 ans de travail. Aujourd'hui, il faut l'utiliser dans tous les sens. Un modèle, c'est fait pour ça. Ça apporte pas forcément une réponse, mais en tout cas, ça fait poser des questions. Et ça fait débattre. Donc, oui, on ne demande que ça. En fixant des objectifs, et j'espère qu'on y arrivera, eh bien, le modèle pourra peut-être nous donner des réponses pour savoir si ces objectifs sont atteignables ou pas, avec ou pas du soutien. Alors, pas de soutien, il a répondu clairement. Il a dit, ça se casse la figure, vous avez vu la courbe, vous la reverrez cet après-midi. 260, il parle de stabilité. Quand on regarde vraiment la courbe, on dit qu'elle a quand même tendance à continuer vers la baisse. Et il dit même, le modèle, on a une probabilité de l'ordre de 10% d'avoir une extinction de l'espèce. Voilà. Donc faisons-le tourner dans l'autre sens, le plus vite possible. C'est ce que je peux demander.
Merci. Éric Bussy devant, ou Roberto Claude? Non. Éric Bussy, allez, c'est parti comme ça.
Oui, je vais rebondir sur Émeric Bussy, donc de Réal de Bassin Loire-Bretagne, en charge du pilotage du plan saumon. Donc je me permettrai de rebondir sur la question de Monsieur Allardy pour compléter par rapport à l'intervention qui a eu lieu hier à ce sujet, donc et apporter des éléments complémentaires également par rapport au contenu et aux enseignements à tirer de ce modèle. Le modèle a également testé tout de même une hypothèse de sortie du soutien d'effectifs en augmentant les taux de survie, enfin en jouant sur l'augmentation des taux de survie en parallèle sur les 20 années à venir, en indiquant donc un doublement de la survie pendant ces 20 années permettrait, en interrompant les opérations de soutien d'effectifs, l'établissement d'une petite population viable et autosuffisante en moyenne de 750 saumons à Vichy. Il a également indiqué, donc comme le disait justement M. Allardy, que l'arrêt de soutien d'effectifs sans amélioration notable de la qualité des habitats permettrait toutefois à une petite population résiduelle de se maintenir également. Et donc ce modèle met surtout également en avant le fait que l'opération de soutien d'effectifs ne peut être qu'une réponse de très court terme, si tant est qu'elle soit une réponse à l'objectif de viabilité de la population, et que la priorité doit porter sur l'action en faveur des habitats. Ce que nous dit ce modèle, c'est que le soutien d'effectifs ne pourra pas, par lui seul, apporter la réponse à la viabilité autonome et stable d'une population sauvage dans l'Allier.
Précision utile. Hein. On continue. On a le record. Non, mais forcément, hein, j'accélère, mais le but, c'est bien d'échanger. Sachant que dans la journée, c'est-à-dire y compris dans l'après-midi à travers la table ronde, pardon, on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Hein. Alors, on y va? Monsieur, oui, en premier. Enfin, bon, allez, peu importe, vous êtes l'un derrière l'autre.
Docteur Jean-Paul Fourré, pêcheur de saumon, ayant déposé un rapport à Monsieur Brice Hortefeux, député européen, Clermont-Ferrand, et à mon cousin, Peter Vigier, député de la Haute-Loire. Je voudrais savoir qui va prendre la décision de la réouverture de la pêche sportive sur Allier et quand. Je vous remercie de cette réponse.
Ah, une question directe. Alors, est-ce qu'il y a une réponse dans la salle?
Je ne suis pas sûr. Est-ce M. Philippe Martin, le ministre de l'Environnement, qui prendra cette décision ou d'autres, une autre autorité?
Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Merci de l'avoir posée. Bon, allez, on prend une autre. Elle est posée.
Oui, c'est plutôt une observation. Je crois que l'intérêt d'un colloque comme celui-ci, c'est évidemment de parler des deux grands fleuves. C'était l'enjeu du colloque du Rhin et de la Loire. Et je crois que ça, c'est très important. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à garder des contacts avec toutes les régions de France où il y a du saumon. Je crois que c'est très, très important, parce que ces échanges d'expériences, des situations qui sont différentes, ben c'est très important. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en France, il y a aussi les rivières, c'est ce que j'ai dit dans l'atelier hier, les rivières du massif armoricain, où il remonte en moyenne encore entre 9 et 10 000 saumons par an, sur entre 20 et 30 petits fleuves côtiers, non compris les fleuves côtiers de Basse-Normandie. On a eu hier, une démonstration et un grand souffle et un espoir, je crois, c'est ce qui va se faire sous la Cellune, qui est quand même une rivière déjà d'une certaine importance. Et je crois que ça va être quelque chose aussi de très porteur. Et je pense que ça ne peut que servir au renouveau de la Loire et du Rhin. Mais je crois qu'il faudra suivre ça de très très près et ne pas oublier qu'en France, il y a aussi d'autres secteurs où le saumon est encore en relative bonne santé.
Merci. Monsieur Berne, devant, et puis on vous prendra après. Allez. Tant que je vois des mains se lever, automatiquement, on arrivera à vous donner la parole.
Sur les... Bon, je ne connais pas ce modèle, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les Américains et les Canadiens ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Ils sont assez en avance sur nous. Il y avait un article très intéressant récemment d'un chercheur américain qui avait retracé une quarantaine d'années et qui disait, en gros, que pour eux, la stratégie, je l'ai déjà dit hier, mais je vais le répéter de manière assez... La stratégie passe à poisson plus repeuplement était une stratégie mauvaise, in fine, après réflexion. Que vraiment, la vraie stratégie, c'était la reconquête intégrale des rivières. Hein, parce que, bon, tout à l'heure, je voyais l'objectif 100% à Poutest, Monistrol. Bon, je vous souhaite bon courage, parce qu'une passe à poisson qui marche à 100%, moi, j'en ai jamais vu. J'en ai connu un paquet. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effet qui est catastrophique, c'est l'effet cumulatif. Même si vous avez 90% de poissons qui marchent par passe, si vous multipliez ça par 10 ou 20 ouvrages, 0,9 à la puissance 20, ça vous fait un chiffre tout petit. Donc si vous avez 100 saumons qui remontent, et s'il ne reste plus que 2 à l'arrivée, j'espère qu'il y a au moins un mâle et une femelle, quoi. Donc vraiment, la vraie stratégie, je pense, c'est la stratégie d'amélioration à la fois des habitats et d'enlèvement des barrages. Et je pense maintenant, puisqu'on parle de la Normandie, nous, c'est vraiment la stratégie qu'on a prise. C'est-à-dire qu'on a effectivement une population réactuelle qui est beaucoup plus forte que sur le bassin de... On a des rivières aussi beaucoup plus courtes, enfin beaucoup plus faciles d'accès. Mais c'est vraiment la stratégie. Nous, notre objectif, c'est de descendre en gros les taux d'étagement de nos rivières qui sont de l'ordre de 70-80% à un taux d'étagement de l'ordre de 30% maximum. Voilà. Et alors, pour l'ouverture, moi, je ne me prononcerai pas sur l'ouverture de la pêche, hein, mais ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment, à mon avis, il faut vraiment une population assez solide, assez costaud et assez bien implantée pour commencer à envisager de rouvrir la pêche. Si je prends l'exemple de la truite de mer, par exemple, bon, maintenant, on a sur des rivières, on peut avoir 10 000 truites de mer. Bon, là, il n'y a plus de problème pour ouvrir la pêche quand on a 10 000 truites de mer. Bon, ensuite, les ouvertures sur les saumons avec les tacs. Bon, le tac, c'est intéressant, mais ça peut être problématique parce que c'est pas la même chose d'avoir une fermeture totale, une interdiction totale, que d'avoir une fermeture, ou une ouverture limitée avec toutes les tentations qu'il y a derrière. J'ai mon bracelet dans la poche, j'ai pris un saumon ce matin, peut-être que j'en prendrai un deuxième, donc je mettrai le bracelet sur le deuxième, etc. Enfin, il faut réfléchir à tout ça, hein. Ça c'est des sujets importants.
Merci. Dans tous les cas, on va y revenir. Hein. C'est un sujet qui va être latent dans la journée, et c'est vrai que c'est important d'avoir des positionnements.
Bonjour à tous, donc Barbet Rémy, Observatoire Loire de Blois. Donc, je voulais revenir sur l'intervention sur la pollution lumineuse. Ça m'avait beaucoup intéressé et je voulais savoir s'il y avait eu des retours d'expérience sur des actions qui avaient été menées ou des alternatives, parce que nous, en Loire-Moyenne, on a beaucoup de pompières. Par exemple, à Blois, effectivement, les arcs sont éclairés en bleu. Donc, savoir quelles alternatives on peut proposer aux élus, parce que évidemment, ils sont obligés de valoriser leur patrimoine local. Et donc, ce serait intéressant d'avoir ce genre de retour d'expérience après le colloque. Merci.
Allez, devant moi, Nicolas Forêt.
Nicolas Forêt de Réal Centre. Je rappelle qu'on a une réglementation toute nouvelle sur la pollution lumineuse. Qui n'impose pas de ne pas éclairer les monuments, mais effectivement, on pourrait se dire que quelque part, entre 11h du soir, 1h du matin, suivant la notoriété de l'ouvrage, et 5h du matin, on pourrait éteindre, ce qui serait quand même déjà 6h de vraie nuit. Bien sûr, nos villes seraient peut-être un peu plus sombres, mais je rappelle qu'on a aussi quelques défis énergétiques sur lesquels nous allons allègrement dans le mur. Une toute petite mesure, ça n'a choqué personne que les enseignes lumineuses soient éteintes la nuit. Peut-être que les noctambules... Alors, les Parisiens, peut-être qu'on éteindra qu'à 1h du matin, mais les noctambules blésois se satisferaient-ils de 23h? Voilà un fort débat démocratique.
On est d'accord. On peut sans doute même faire mieux à Digoin, par exemple, à partir de 10h. Hein. Là-bas, tout en haut. D'accord. Ah, une. Ok.
Un complément de réponse, Patrick Martin, conservateur national du saumon. On a un programme actuel de recherche avec l'Agence nationale pour la recherche, le muséum et le CNRS sur les actions de migration, sur la migration des smolts et l'impact de la lumière et de la photopaillonne. On a déjà une année de données, les publications sont en cours de rédaction, mais il est clair qu'on a des impacts importants de la lumière sur l'activité migratoire avec des phases changeantes. Donc ça, c'est vraiment une des données effectivement qui est un peu plus récente, mais qui est vraiment importante et qui peut être effectivement importante. Alors, je ne connais pas, dans le cadre de la Loire, les niveaux lumineux, mais je peux vous dire que quelques luxes, puisqu'on parle en luxe en termes d'intensité lumineuse, peuvent influer et transformer dans le comportement à un moment donné. Comme vous, si vous vous levez la nuit, à un moment donné, vous allumez la lumière, et votre niveau de mélatonine, qui est une hormone qui régule ses cycles de jour et de la nuit, ça peut vous influer. Et vous avez du mal à vous rendormir par la suite. Ben, le poisson, ça le perturbe aussi pendant un certain temps. Voilà. Tant que j'ai le micro, parce que je vais plus vous le repasser, mais sur la stratégie, je crois qu'on est tous d'accord, ce que disait M. le directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, sur l'objectif, c'est de reconquérir les habitats. La stratégie passe à poisson, repeuplement, c'est pas la finalité, effectivement. Maintenant, toute la question de fond, c'est quand est-ce qu'on va l'atteindre? Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce que Jean Lardy a fait une référence à un document de 1968. Moi, je me suis plongé dans l'archive du Conseil général de la Haute-Loire de 1850, qui disait en 1850, on va aménager les passes à poissons des barrages de Brioude. On est 70 ans plus tard, on se pose toujours la même question. Donc, on voit bien que même si on a plein de programmes, des stages, des contrats, on n'atteint pas l'objectif. Ça a été présenté, je crois, dans la présentation de ce matin. Maintenant, on a eu un accident. Enfin, le saumon a eu un accident. Et je vais me faire une petite analogie. Il y a un accident de la route. Alors, est-ce qu'on met une ceinture, est-ce qu'on met des airbags? Parce que le problème de fond, c'est que la route, elle est tortueuse, bosselée, accidentée. Et qu'il faudrait redresser un peu la route, mais redresser la route, la rendre viable, sans mettre de ceinture, ça s'appelle le train. Ça s'appelle mettre des rails, sécuriser le voyageur, et vous voyez qu'un voyageur dans le train, il ne met pas de ceinture. Mais en attendant, faut-il mettre la ceinture, faut-il mettre les airbags? Est-ce que la ceinture impacte plus? Oui, vous pouvez vous noyer, c'est des débats qu'on a eus. Mais si on garantit qu'on va faire la ligne et que la route va être faite rapidement, bien entendu, on est tous d'accord pour avoir des routes sécuritaires, fiables et un environnement qui soit irréprochable pour le saumon. Donc le débat, c'est pas où on veut aller là, c'est comment on y va et dans quel délai on y va.
Bon, on ne va pas entrer dans le cœur du débat ce matin, hein, puisqu'on a une table ronde sur le sujet, vous aurez l'occasion d'en discuter largement cet après-midi. C'est pas pour évacuer le débat, hein, on est bien d'accord. C'est plutôt que dans le timing et dans l'avancement de cette journée, il est plutôt préférable de revenir sur le sujet cet après-midi et pas trop l'engager ce matin. Jean-Paul Doron, tout là-haut, et puis après, bah, allez-y alors, oui, puisqu'il a le micro. Oui, oui.
Alors c'est un peu à contre-courant de ne pas entamer le débat, mais sur la question de qui rouvre la pêche et quand. Alors qui, je réponds pas, je suis établissement public, je suis pas État. Mais quand, ça suggère qu'il y a des conditions requises ou pas pour le faire. Parmi les diapos que j'ai pas eu le loisir de présenter hier, et c'est de ma faute, hein, il n'y a pas de souci, il y a une diapo sur la dynamique de population d'une population de saumon qui est le SCORF, qui fait modèle, le SCORF et Loire font modèle pour la gestion de la pêche du saumon en Bretagne. Ça s'appelle une courbe de stock recrutement. Peut-être qu'on la présentera dans l'atelier, ça ira très vite. Mais grosso modo, sur le SCORF ou les réserves bretonnes, par rapport à la droite de remplacement qui fait qu'un géniteur l'année N engendre un géniteur à la génération d'après, donc le statu quo, le maintien de la population, en les rivières de Bretagne, on est au-dessus, il y a un surplus. Et on peut taper en partie dans ce surplus, en partie dans ce surplus. Sur l'Allier, l'exercice de modélisation de viabilité de population de l'INRA qui a été présenté donc hier en atelier 2 suggère que si on arrêtait des versements donc à 20 ans, on aura une petite population résiduelle mais relativement solide de 260 animaux en moyenne. Ça veut dire, et ça baisse en tendance, ça veut dire que par rapport à la droite de remplacement, un géniteur donne un géniteur à la génération d'après, on est en dessous de la droite de remplacement. Autrement dit, on est très loin d'un surplus qui permet d'exploiter, et ça veut dire qu'on rajouterait une pression sur un animal qui en subit beaucoup. Ce n'est pas de la sagesse et ce n'est pas de la bonne gestion, en tout cas dans les situations actuelles. Si elles changent, évidemment, la conclusion peut être différente.
Je propose, on arrête hein, si on peut. Je vais donner la parole à M. Doron, voilà. Et puis je propose par rapport à cette fameuse diapositive ou les deux, trois diapositives, si on a un petit peu de temps, c'est de les projeter en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi pour que, voilà, on ait un éclairage qui soit relativement complet. Monsieur Doron,
à vous. Oui, merci de me donner la parole. Je voulais intervenir sur deux éléments, deux ateliers, notamment, bien évidemment, celui qui a intéressé l'habitat et qui vient télescoper celui du repeuplement. J'ai le sentiment aujourd'hui, à titre personnel, que le repeuplement, élude un peu les problèmes de fond et que, ce débat, effectivement, aussi important puisse-t-il être, notamment pour l'axe allié, par rapport à l'importance et le rôle qu'il a pu jouer ces 20 dernières années, ne doit pas ramener le niveau de priorité là où il doit être. Ça a été dit d'ailleurs par certains acteurs et je les en remercie et je vais m'y associer. Je pense que le vrai débat de fond, c'est sur les autres compartiments parce qu'on le voit bien, et ça a été dit d'ailleurs dans les ateliers, dans la restitution, bien souvent le repeuplement est instrumentalisé pour dédouaner certains acteurs de leur véritable responsabilité. Et je vais faire effectivement une réflexion très ciblée, mais vous aurez compris qu'elle n'est pas gratuite en ce qui me concerne. Là aussi, par rapport à la petite hydroélectricité, on a dit dans le rapport tout à l'heure qu'il y avait trois microcentrales, je cite, trois microcentrales, et je connais un peu le sujet, qui sont aujourd'hui connues, que les problèmes effectivement sont récurrents, et sur lesquels ils ne sont toujours pas résolus. J'ai bien noté, toujours pas résolus. Ça renvoie à un problème de fond, me semble-t-il, et ça, c'est bien là aussi qu'il faut peut-être, plutôt que de perdre du temps quelquefois sur des aspects mineurs, enfin excusez-moi si je qualifie le repeuplement de mineur, peut-être véritablement, effectivement, que dans les conclusions de ce colloque, on s'attaque au problème de fond, et là ça touche aussi un des aspects, et c'est là en cela que j'adhère un petit peu à l'illustration de l'accident de la route, mais simplement, peut-être pas simplement se limiter aux aspects, des mesures de sécurité, même si elles doivent exister et qu'elles sont importantes. Aujourd'hui, sur la sécurité de la route et sur l'accidentologie, on a avancé, et on doit avancer la même chose pour les accidents de la biodiversité, notamment pour le saumon, sur le contrôle et la répression. Aujourd'hui, quand on dit très clairement que l'État et ses services ne vont pas au bout de leur rôle et de leur mission, c'est véritablement le problème aujourd'hui. Alors, en ont-ils les moyens, c'est aussi une autre difficulté. Je ne veux pas non plus jeter la cabille sur, effectivement, les services de l'État dont on sait au quotidien qu'ils font ce qu'ils peuvent, et avec les moyens qu'on leur donne. Je crois que le problème de fond aujourd'hui, et n'en déplaise, effectivement, à certains représentants d'hydroélectricité qui qualifient mon propos hier de provocateur et quelque peu de stigmatisant vis-à-vis de la profession. Moi, je suis désolé, quand on exploite un certain nombre d'ouvrages et qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur responsable de cette filière, on n'est toujours pas effectivement dans la norme et dans le respect de la réglementation, je ne suis pas forcément très enclin à être ouvert à la discussion et à recevoir des leçons à titre personnel, et notamment par rapport au milieu associatif que je représente. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur l'atelier, c'est sûr, vous l'aurez compris, je ne peux pas, moi, en tant qu'élu associatif de la pêche, un peu militant dans l'âme, vous l'aurez compris, et dans mon ton et dans mon propos, et avec suffisamment d'antériorité dans le système, ne pas réagir effectivement à la question de l'organisation de la pêche associative et sur sa pertinence. Cela rejoint visiblement un problème, sans doute, qui nous concerne, sur l'importance de l'effort de la communication par rapport à ce qui est fait aujourd'hui par le réseau associatif pêche, par rapport à l'évolution du réseau, et sur, visiblement, me semble-t-il, dans mon analyse, ça n'engage que moi de le dire, une méconnaissance de certains acteurs, effectivement, dans les questions, voire les jugements portés. Donc, attention, je finis tout de suite.
Excuse-moi, oui. Tu es déjà dans l'après-midi, là. Oui.
Pardon ?
Dans les, t'es déjà dans les tables rondes de l'après-midi.
Oui, tout à fait, oui.
Peut-être tu vas raccourcir relancer le débat là-dessus cet après-midi.
Tout à fait. Ok, bah écoute, je vais lancer cet après-midi, mais en tout cas, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ça passe par la connaissance, effectivement.
Oui, oui. Merci. Hein, mais c'est un peu le sens de mon appel. Et puis après, je laissais glisser, hein, puisque les choses étaient parties. Mais c'est vrai que c'est très clairement dans la discussion de cet après-midi. On est dans la table ronde de la gouvernance. On est dans la deuxième table ronde. Ce matin, il est clair que vous abordez les bonnes questions. Mais il y en a d'autres. Hein. Quand on parle des ouvrages, moi, je ne peux pas m'empêcher sur le Haut-Allier de penser qu'il y a des ouvrages qui appartiennent aux collectivités. Et effectivement, les collectivités ne sont pas au rendez-vous. Elles ne sont pas au rendez-vous. Je suis désolé d'avoir à le dire.
J'aimerais poser une question. Nicolas Forêt de Réal Centre, j'aimerais poser un peu une question scientifique. Vous nous évoquez une baisse de population qui est accentuée et généralisée à l'ensemble de l'aire de répartition après 1986. Je suis un peu frappé de la concomitance de cette date. Avez-vous quelques idées sur des pistes d'explication, en particulier des pistes milieu? Est-ce lié possibilité à une augmentation de l'efficacité des pêches en mer? Deuxième possibilité, est-ce lié à l'usage d'un certain nombre de nouvelles molécules, type perturbateurs endocriniens ou progestagènes? A-t-on idée de pistes qui seraient autant d'axes aujourd'hui de recherche et demain peut-être d'axes de décision? Il y a des choses qu'on identifie une passe à poisson qui n'existe pas ou qui fonctionne. On a le nez au milieu de la figure. Ça se voit très bien. Peut-être d'autres choses sont encore plus perverses, plus nuisantes. A-t-on exploré un peu ces autres pistes?
Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions derrière? C'est pour que je puisse gérer un tout petit peu le temps. Sinon, on marque la pause et puis on reprendra après. Alors, j'ai d'abord ici, et puis donc Patrick, allez, j'en prendrai une dernière après, puis on arrête là.
Oui, c'est une tentative de réponse à la question de M. Fauré. Les pistes de raréfaction après le milieu des années 80, la première cause qui est mondiale, c'est une très forte diminution des taux de survie en mer, particulièrement pour les grands saumons de 2 et 3 hivers de mer, qui sont ceux de l'Allier, par hasard, par malchance. Ça a été constaté partout et dans certaines rivières, il y a des populations de petits saumons, les 1 hiver de mer, qui dans une certaine mesure compensent cette raréfaction des grands. C'est ce qui s'est passé en Bretagne où avant il y avait une plus forte proportion de 2 hivers de mer et maintenant on a 90% de 1 hiver de mer, les petits saumons qui font 2 à 3 kilos et non pas 4 à 5 kilos ou 8 kilos comme sur l'Allier quand c'est les 3 hivers de mer. Et ça, c'est augmentation des températures de surface de l'océan, moindre disponibilité en proie, peut-être effet des pêches minotières. Donc le groupe de travail du CIEM qui travaille pour l'Oxan, sur commande de l'Oxan, a synthétisé des travaux scientifiques là-dessus, sur ce qui se passe en mer, et sans avoir la réponse définitive, vu l'universalité de la difficulté sur toutes les rivières, même quand elles sont en bon état, toutes les populations de saumon, même au Québec où il y a relativement peu de nuisances, ou en Europe du Nord, quand il n'y a pas de micro-centrale ou de grosse centrale hydroélectrique, eh ben, on voit bien que la cause est commune, elle est marine. Après, sur une augmentation de pression en rivière, je ne crois pas que les gens aient mis en évidence de choses très claires aujourd'hui, même si on sait que certains polluants comme l'atrazine tuent beaucoup de smolt à leur passage en estuaire. Donc peut-être que là, il y a un effet des micropolluants toxiques, il y a des choses là-dessus, mais de là à en déduire que ça a un effet populationnel, enfin, c'est pas totalement décidé, tranché, et il n'y a pas de conclusion parfaite là-dessus.
C'est un complément simple. Oui, je ne peux que confirmer effectivement ce que vient de dire Vincent. C'est la préoccupation du NASCO qui, pendant des années, a dit s'il n'y a plus de saumon, c'est peut-être parce qu'on les surpêche en mer. Et donc le NASCO a réuni tous les gouvernements pour dire on arrête de pêcher au Groenland, on arrête de pêcher au Féroé. Après 20 ans, ça n'a pas changé. Donc le NASCO a dit il va falloir qu'on étudie ce qui se passe en mer. Et il y a un très gros programme européen qui s'appelle CELSI, et je ne vais pas aller plus loin, je vous encourage à aller voir le compte rendu sur le site. CELSI a réuni une vingtaine d'équipes pendant 5 ans, ça prend plusieurs millions d'euros de recherche, pour essayer de quadriller l'Atlantique et savoir ce qui se passe. Oui, la problématique, elle est majoritairement en mer, elle est globale. Pour en résumer, pour une rivière irlandaise, en 30 ans, il a remonté 5 fois moins de saumon pour la même quantité de smolt qui descendait. Donc oui, il se passe des choses en mer. Mais en mer, c'est difficile, on ne comprend pas trop, réchauffement, changement climatique, les zones. Regardez le site, internet, celle-ci. Ce qui a été mis, par contre, et en même temps, vous avez le compte-rendu qui a été publié dans une revue du CIUM, puisque le colloque de rendu de celle-ci s'est passé en France pour la première fois à La Rochelle, et ils ont effectivement abordé la globalité des problèmes, les problèmes de pesticides qui peuvent ne pas tuer un poisson, mais qui peuvent l'empêcher de survivre en mer. Donc c'est une globalité, il y a toute la synthèse de cette question-là, on n'a pas encore toutes les réponses, programme celle-ci et le compte-rendu de ce programme-là du colloque de La Rochelle qui a été publié dans la revue du CIUM, avec que des articles scientifiques.
Alors, je ne sais pas, il va falloir manager maintenant le temps. Hein.
Oui, ben je prends la dernière.
J'avais la dernière, et puis je fais le passage.
Des petites interrogations, peut-être pour aussi ouvrir sur l'après-midi. Je reprends un petit peu les éléments. Donc, il y a l'habitat dont on a parlé. On a parlé un petit peu du déclin du saumon sur l'Allier, où vraiment il y a eu un déclin significatif fin des années 70, début des années 80. Et on a parlé donc aussi des ouvrages microcentrales. Les trois interrogations que je soulève, c'est que ces microcentrales et ces ouvrages en 80 étaient présentes, à mon avis, hein, pour l'ensemble, la plupart elles étaient présentes déjà sur l'axe Allier. Donc, qu'est-ce qui explique aussi que ce déclin des années 80 ? L'habitat, pour connaître un petit peu l'Allier, on peut estimer, à mon avis, hein, qu'au-dessus de l'Anjac, toute la partie des gorges ou autres, leur habitat est relativement de bonne qualité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs, peut-être au niveau hydrologique ou hydraulique, ou d'autres aménagements à l'amont, qui pourraient avoir un impact sur les populations et les peuplements piscicoles, sachant aussi que sur les dernières pêches électriques qui ont été effectuées sur l'Allier, on voit que les peuplements sont en sérieux déficit, notamment si on les compare à la Loire, sur la même latitude, on va dire, ou la même distance à la source. Donc voilà, c'est juste des interrogations sur...
Ok, merci. Donc on arrête là pour le moment.